Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il a eu les honneurs du Times, du Sunday Mail, de la BBC, de Fox News et a fini sa carrière dans West France. Il s'appelle Rocco, il est gris et il y a longtemps il vivait en Afrique. Il appartient à Marion Wisniewski, membre d'une association d'aide aux animaux dans le comté du Berkshire. Elle a recueilli chez elle ce perroquet égaré après qu'il a commis quelques dégâts à l'association. Disposant dans son salon d'une enceinte connectée de type Alexa, Marion a d'abord découvert que son perroquet discutait continuellement avec l'enceinte en son absence et qu'il écoutait de cette façon sa musique préférée. Puis, à sa grande surprise, elle s'est aperçue que l'animal avait réussi à persuader Alexa d'acheter un certain nombre de produits affectionnés par les perroquets grâce à son compte Amazon. Il a ainsi commandé une ampoule, bon, on ne sait pas très bien pourquoi, une ampoule, mais aussi des baies, un cerf-volant, de la glace, des fraises, de la pastèque, du raisin et des brocolis, ainsi qu'une bouilloire. Depuis lors, le soir, en rentrant chez elle, Marion doit vérifier sa shopping list et annuler tous les achats que son animal a réalisés sur Internet. Les perroquets auraient, dit-on, l'intelligence d'un humain de 5 ans et le niveau émotionnel d'un enfant de 2 ans. La cible des enceintes connectées, évidemment. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, il est aussi question d'animaux, mais comme c'est Inès Leroux qui les a rencontrés et qu'elle a simplement l'intention de changer le monde, les histoires qu'elle raconte ne sont anecdotiques qu'en apparence, ce sont des petits cailloux qui font de grandes routes, des gouttes d'eau qui forment des océans, comme on l'entend tout de suite, changer le monde, épisode 2, se relier aux animaux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Biquette, 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 biquette. Enora, Elise.
Attention. Allez, Enora, file. Allez, gribouille. J'aime bien cette heure-ci, c'est paisible. Tous les oiseaux, tout le monde se calme. C'est la fin de la journée.
Jean-Yves, je l'ai rencontré un matin de janvier sur le marché de Rostronin, une commune du centre de la Bretagne, où il vendait du fromage de chèvre. J'étais étonnée qu'il fasse du fromage en hiver. Normalement, en cette saison, les animaux sont en gestation et ne produisent pas de lait. Alors, je suis allée voir ce que c'était que cette histoire étrange. Du lait en hiver.
Biquette, biquette, biquette. Allez, allez, allez. Kiwi. Et on ferme.
Bon, j'ai plus qu'à traire. Je m'appelle Jean-Yves Ruelou. J'ai eu mes deux premières chèvres en 1978. Puis après, j'en ai eu un peu plus. Puis j'ai fini par monter un troupeau. Et actuellement, que je m'approche doucement vers la retraite, j'en ai 17, dont 13 sont en lactation continue. J'ai des traits matin et soir. Je fais une traite manuelle, pas de machine.
Ici, le lait est produit sans que les petits soient séparés des mères et sans envoyer d'animaux à l'abattoir, ce qui est très rare. Dans les élevages laitiers classiques, les bêtes font un petit chaque année qui leur est aussitôt retiré pour qu'on puisse recueillir le lait. Les femelles servent alors à renouveler le troupeau, les mâles sont envoyés à l'abattoir. Jean-Yves a travaillé de cette façon pendant 15 ans avec un troupeau de 30 chèvres qui mettait bas chaque année.
Ça faisait une pointe de travail au printemps complètement incroyable, quoi. Il fallait traire le lait, puis après il fallait faire une quantité phénoménale de fromage à ce moment-là et le vendre sur les marchés. C'était des printemps en dépression. Et le fait d'envoyer des paquets de chevreaux comme ça, qui partaient dans des camions, dans des toutes petites cages, pour l'abattoir, puisque c'était pour l'abattoir. Et pour les mères qui les entendent et qui leur répondent, il y a une phase de stress quand même.
Ça vous convenait pas ?
Non, ça ne me convenait pas. Envoyer des chevreaux, des bêtes à l'abattoir, c'est... Surtout des chevreaux, ce sont des animaux très attachants. Et aussi parce que des chèvres qui mettent bas tous les ans, c'est beaucoup de souffrance quelque part pour l'animal, quoi. Une fois, deux fois, trois fois, il suffit de demander à toutes les femmes de la Terre si elles voudraient faire des enfants tous les ans ou tous les deux ans. C'est pas une vie, quoi. Et puis, les chèvres dans les élevages, elles ont une durée de vie extrêmement faible. Une chèvre, en première année, elle fait beaucoup de lait. En deuxième année, elle en fait encore plus. En troisième année, ça redescend un peu. Et en quatrième année, bon, ça commence à bien faire. Elle, ça s'arrête là, en général. J'ai envoyé l'abattoir. Donc, ça leur fait des vies vraiment très, très courtes. Et puis, j'avais entendu, quand j'étais dans mes premières années d'élevage, quelqu'un qui me disait qu'il avait un ami qui avait des chèvres, qui avait 15 ans et qui avait mis de bas une seule fois. Et ça devait faire une douzaine d'années au moins qu'il les traillait sans qu'elles fassent de petits. Il y avait aussi l'expérience des nourrices chez les humains. Pendant des siècles, ça s'est fait, avec des femmes qui faisaient un enfant et puis qui nourrissaient des bébés, des bourgeois en général, pendant des années, sans refaire forcément d'enfants. Alors, pourquoi pas sur les chèvres et j'ai essayé. J'ai essayé avec 3 ou 4 chèvres au début. Bon, ça marchait très bien. Les années suivantes, j'ai fait un peu plus. Bon, j'avais un peu peur en hiver que ça ne redémarre pas au printemps. Ça, c'est sûr.
Que la lactation
ne redémarre pas. Quoi. Qu'elle descende d'un palier chaque année et qu'on se retrouve très, très vite, très, très bas. Quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Ça, je l'ai vérifié chaque année. Quand le printemps venait, l'herbe repoussait. Donc, a priori, ce serait lié... plus à l'alimentation, quand l'herbe commence à être beaucoup plus riche, quoi. En 2005, donc, il n'y a pas eu de saillie du tout sur mon troupeau.
D'accouplement
Avec le bouc.
Ouais.
À dire vrai, quand on trouve ça dans les livres, dans les revues professionnelles, quand on parle de lactation longue, c'est plutôt 18 mois. Moi, c'est plutôt 12 ans. Oui.
Donc là, vos chèvres, elles ont quel âge ?
Là, disons que les plus productives en ce moment ont 8 ans et 9 ans.
Et donc ça fait 7-8 ans qu'elles produisent du lait sans avoir fait de chevreau.
7 ans et 8 ans de lactation. Mais il y avait des précédentes qui sont taries depuis et qui ont fait jusqu'à 12 années de lactation, quoi. Et c'était Cachet, ma petite vieille qui a 16 ans cette année. Et qui est en retraite depuis quelques années quand même.
Donc vous ne les envoyez pas à l'abattoir ?
Non, elles meurent ici. Elles meurent tranquillement. Quelques jours avant une mort de vieillesse, on voit les premiers symptômes. Elle a du mal à se lever. Du coup, elle commence à avoir des privilèges que les autres n'ont pas. Elle peut sortir du troupeau et vivre dehors parce qu'elles l'ont mérité quand même. Et elles se promènent comme s'ils avaient toujours vécu à l'extérieur, comme ça, parmi nous. C'est sympa. Ah, douce magie des ronces et de l'herbe qui se transforment en lait, qui vont se transformer en fromage. Ça. Pff.
Elles produisent combien de litres en moyenne, vos chèvres ?
J'ai une chèvre cette année qui était donc en 8e année de lactation, qui est remontée à 4,8 litres par jour. Pour une chèvre déjà de cet âge-là, et en lactation depuis aussi longtemps sans faire de petits, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'elle serait très très bien placée dans beaucoup beaucoup de troupeaux. Elle fait largement ses 900 litres par an. Et 900 comparé à la moyenne départementale qui doit être 760, c'est quand même pas mal.
Vous avez quand même un tout petit troupeau, enfin 14
chèvres. Tout petit troupeau, tout petits investissements.
À dire vrai, j'ai 63 ans, donc je fais plus du tout d'investissement. J'ai très peu de dépenses de nourriture, puisque j'ai beaucoup de surface. J'ai en fait 2 chèvres à l'hectare. J'ai très peu de dépenses de vétérinaire. Les charges de structure, tout est amorti depuis belle lurette. Mes vieux tracteurs aussi. Donc en fait, avec un chiffre d'affaires très faible, j'arrive à avoir un revenu correct.
Là, avec votre troupeau de 14 chèvres, vous faites combien de fromages par jour ?
Là, en ce moment, j'en fais 30. En plein été, là, je suis monté à un peu plus de 40. 30 fromages par jour, ça me rapporte 76 euros brut par jour. Ça fait vraiment des petits chiffres pour un éleveur, mais c'est largement suffisant. Ces dernières années, j'arrivais à avoir le SMIC, alors que des collègues en agriculture intensive avec beaucoup d'hectares, des fois, se trouvaient avec un tiers de SMIC.
Plus tard dans la soirée, avec Jean-Yves, nous avons épluché ses comptes. Il touche à minima un SMIC par mois net. Et ceci sans jamais avoir sollicité de subvention auprès de la PAC, la politique agricole commune. Le passage à la lactation longue lui a permis d'économiser de nombreux frais, d'abattoir d'abord, mais aussi de soins vétérinaires.
Alors j'ai fait quand même au moins une quinzaine d'années de manière classique. Alors en dehors des problèmes de parasitisme qui sont assez chroniques chez les chèvres, les problèmes que j'avais, c'était des problèmes de mise bas, des problèmes de fin de gestation, des problèmes de début de lactation. Donc, il n'y en a plus.
Tous vos problèmes vétérinaires ont disparu, finalement.
Ouais. Oui, et surtout, c'est le mode de vie qui est différent, quoi. C'est une vie plus chaleureuse. C'est plus sympa d'être avec des chèvres qu'on sait qu'on va garder quasiment toute leur vie. On n'a plus l'impression de faire de la production, on a l'impression de partager la vie avec des animaux et de s'échanger des services les uns les autres, quoi. Comme avec tous les autres animaux, avec les poules, avec les chiens, avec les chats, chacun a son rôle et tout se passe bien.
Et voilà, le troupeau est prêt.
Je vais leur remettre un peu de foin.
Bon foin.
Jean-Yves et son troupeau m'ont rappelé une autre histoire qu'on m'avait racontée et à laquelle je n'arrivais pas à croire. Une rumeur sans doute. Je suis quand même allée voir dans le port de Paimpol si j'allais trouver Guirec Soudé, un gars de 25 ans et son petit voilier vert et blanc.
Guirec.
Inès.
Enchanté. Ça va, Jacques ?
Ouais, Guirec.
Bah ouais.
Et Monique, elle est là ?
Non, Momo, elle est pas là. Elle est restée chez moi, elle est en train de profiter un peu du plancher des vaches, quoi. Puis, bon, elle parle, mais elle est un peu timide, quand même, tu vois. Donc,
Bah, on t'apporte, hein, Inès. Hein.
Tu peux venir regarder l'intérieur rapidement. C'est un peu le bordel. On sort toutes les affaires. Voilà, c'est chez Momo, j'ai...
C'est dans cet espace que tu as voyagé pendant...
5 ans exactement, ouais, jour pour jour, 5 ans, ouais. Et donc là, on est dans la partie la plus large d'Ivinec. Il fait quoi, 5 mètres carrés, 5-6 mètres carrés, quoi. Ouais, donc c'est pas grand. C'est le coin cuisine, table à cartes.
Okay, Ivinec, c'est le nom de ton bateau.
C'est le nom de mon bateau, ouais. C'est le nom de la petite île où j'ai grandi, du coup, tout près d'ici, à peu près dans les côtes d'Armor, où je suis vachement attaché... Et donc c'était important pour moi de donner le même nom de l'endroit où j'ai grandi à mon bateau.
T'as grandi donc, toute voilà. Ta vie sur une île ?
Toute mon enfance. Ouais. Après, très jeune, j'étais interne à 7 ans. Donc j'étais pas non plus 24 heures sur 24 chez moi, malheureusement. mais j'ai quand même passé énormément de temps. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'étais à Yvignac, je passais plus de temps sur l'eau que sur terre, quoi. Toujours en train, tu vois, d'aller à la pêche, de plonger, de faire de la planche à voile. Ouais.
C'est une île de combien d'habitants ?
Bah, en fait, c'est une île privée, mais c'est pas grand. Hein. Ça fait 3 hectares et demi, et on a une toute petite maison dessus. C'est mes grands-parents qui ont acheté ça juste après la guerre en 45.
Il n'y a que ta famille dessus ?
Ouais, bah en fait, il y avait mon père, mais malheureusement, il est parti quand j'étais au Groenland, et du coup, maintenant, il n'y a plus grand monde. Donc, il y aura Monique et moi. donc, ouais, et puis c'est bien pour Monique, parce que ça va éviter de trop la dépayser. Il y aura toujours un peu d'air marin. Moi, j'ai toujours eu cet appel du large, et j'ai grandi les deux pieds dans l'eau. J'adorais aller à la pêche pour amener que ce soit du poisson, des crustacés, poser mes casiers. Mon premier bateau, je l'ai eu, j'avais 6 ans, tu vois. Un petit bateau de pêche avec un petit moteur dessus. C'est un rêve depuis tout petit de, en fait, d'acheter un bateau et partir naviguer, quoi, faire entre guillemets un tour du monde. Après, mon père, lui, avait traversé deux fois l'Atlantique à l'époque. Mais c'est vrai qu'il m'avait raconté plein d'histoires et je pense que ça a dû laisser quelque chose chez moi. Puis voilà, à l'âge de 18 ans, moi, j'ai décidé de partir en Australie pour apprendre l'anglais et gagner un petit peu de sous parce que j'avais ce rêve d'acheter un bateau. Je suis arrivé donc dans ce pays sans argent, sans parler un mot d'anglais, avec aucun contact. Donc c'est vrai que les débuts ont été compliqués, je dormais dans la rue, du coup c'était Sydney, puis après je trouvais un premier boulot, et ensuite j'ai fini sur des gros bateaux de pêche, et où là je bossais 20 heures par jour pendant des semaines. Là, c'était vraiment très dur, mais ça m'a permis de gagner pas mal de sous, et quand je suis rentré en France à 20 ans, je me suis acheté mon bateau que j'ai préparé. J'ai eu qu'un seul bateau dans ma vie, c'est, voilà, c'est Yvignac, c'est celui-là. Quand je l'ai acheté, j'ai cru faire une bonne affaire, mais très vite c'était la désillusion. Je me suis aperçu que y avait pas mal de problèmes. Alors faut savoir qu'Yvignac, c'est un bateau en acier, et le problème de l'acier, c'est la corrosion. Il y avait pas mal d'endroits en fait qui étaient pas mal abîmés. Donc il faut gratter avec une brosse métallique après pour revenir à l'acier vraiment sain et passer des produits. Et en grattant, en tapant un petit peu, j'ai traversé la coque à 2-3 endroits, et là je me suis aperçu qu'en fait le bateau était vraiment très mauvais état. Et puis on m'a mis en garde, on m'a dit mais direct c'est trop dangereux. Déjà, t'as aucune expérience vraiment maritime sur des bateaux aussi gros, et ton bateau en très mauvais état, donc il faut le sortir de l'eau, ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'argent. Puis j'en avais marre, il y a toujours une bonne excuse pour pas partir, et j'ai rebouché comme je pouvais avec des vis, du silicone, du Sikaflex, des choses comme ça, de la soudure. Mais je savais qu'il y avait plein d'endroits où le bateau était très fragile, et je me suis dit bon, tant pis, j'y vais. Et voilà, je suis parti, et j'avais aucun moyen de communication. J'avais une vieille VHF qui avait aucune portée, qui marchait très mal, mais j'étais heureux, j'étais en confiance totale. Et puis je me disais au pire, bon bah si ça coule, j'ai une petite annexe, j'ai un paddle, donc avec les vents et les courants, j'arriverai bien quelque part. Voilà. En fait, je voulais une poule avant même d'avoir mon bateau. Je me dis, ah, mais une poule, c'est très trop cool ça, et puis d'avoir des œufs en mer. Parce que la nourriture, c'est toujours un problème, tu vas voir. Et si tu veux, avant de partir, je me suis renseigné auprès d'experts, et on m'a dit, mais une poule stressée, ça peut pas pondre. Et sur un bateau, c'est pas possible, ça peut pas marcher, en gros. Et moi, j'étais quand même super déçu. Je me suis dit, bon, pff. Donc je suis parti de Bretagne tout seul, très triste. Quand je suis arrivé aux Canaries, je me suis dit, bon, là, je vais partir pendant pratiquement un mois de traversée, il faut absolument que j'en trouve une. Puis des copains là-bas, en fait, que je me suis fait, m'ont dit, écoute, nous, on peut t'en trouver une, on s'en occupe. Et puis, ils m'ont trouvé une poule. Et il y a eu en fait, notre regard s'est croisé, il y a eu un coup de foudre, elle a embarqué sur le bateau. Et premier jour à 9, 25 en 28 jours de traversée de l'Atlantique. Et là, bon, je peux même pas les compter, hein, c'est plus de 1000. Voilà. Hein. En fait, j'avais pas vraiment d'idée de prénom. Et en Bretagne, on a tous son petit bol là, avec les petites oreillettes et son prénom dessus. Et moi, j'en avais un avec écrit Monique. Et je me suis dit, bon, bah, comme ça, Momo, on aura chacun son bol. Il n'y aura pas d'histoire, un peu, voilà. Quand je suis parti des Canaries, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que moi, j'ai jamais eu de poule chez moi. Et je m'étais dit, bon, bah, peut-être qu'elle va tomber à l'eau. Évidemment, j'essaierai de la rattraper, mais en mer, c'est quand même compliqué. Je me suis dit, bon, si vraiment elle m'emmerde, au pire, bah voilà, je la boufferai. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, ça me choque un peu de dire ça, parce que c'est quelque chose qui pourrait plus jamais me traverser l'esprit, bien évidemment. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais après, on s'est tellement liés, en fait, d'amitié, qu'il y avait une vraie complicité entre nous, que bah, enfin voilà quoi, Monique, aujourd'hui pour moi c'est tout quoi, vraiment, honnêtement quoi, ouais.
C'est vrai?
Bah ouais, non, mais vraiment, ouais, je l'adore quoi, j'adore, je l'aime plus que tout, ouais, ouais.
C'est-à-dire?
Bah non, mais c'est-à-dire, quand tu passes autant d'années dans un endroit aussi petit, que tu partages autant de choses fortes, avec un animal, bah forcément, bah voilà, les choses font que bah tu te rapproches quoi. Enfin, on a vraiment vécu des moments durs où on aurait dû tout perdre avec Monique. Ça veut dire on aurait presque pu mourir à plusieurs reprises. Honnêtement, bah c'est vrai qu'il y a des moments qui ont été quand même compliqués où on a couché le bateau le mât dans l'eau. Une fois, on s'est complètement retourné la tête à l'envers. On a chopé des vagues qui montaient jusqu'à 15 mètres, des déferlantes. Enfin, tu vois. Et puis là, t'es tout seul avec ta poule et puis enfin Monique, elle comprend tout. Elle est très intelligente. Et je lui expliquais tout, d'ailleurs, c'est comme une confidente, moi je lui parlais, et puis je le vois, elle m'écoutait, enfin, même des moments j'écoutais de la musique, et je voyais Monique qui me regardait en me disant, mais attends Guy, c'est quoi ça, change-moi ça tout de suite, hop, changeait, puis là, elle était contente et tout. Non, mais c'est, puis, enfin, elle me faisait du bien, quoi. Puis surtout, c'est, enfin, Monique, c'est comme un chien, un chat pour certaines personnes, c'est vraiment mon animal de compagnie, elle passe son temps avec moi, elle vient sur mes genoux, elle s'endort, je la caresse, elle me suit partout, je l'appelle, elle arrive tout de suite. Enfin, je partage tout, même quand j'ai fait du surf avec Monique, de la planche à voile, j'ai fait du kitesurf, et puis surtout, j'emmène aux endroits où ils n'avaient même jamais vu de poule, quoi. C'était ça qui était rigolo, dans le Grand Nord, même dans... On a partagé tellement de moments forts. Ouais, ouais. Il y a des moments où j'ai presque pu survivre grâce à Monique. Je pense au moment où on était pris dans les glaces pendant 130 jours, complètement coupé du monde, sans soleil pendant plus de 70 jours.
Au Groenland.
Au Groenland, ouais, avec des températures qui descendaient jusqu'à moins 60. Et moi, j'avais pris que du riz, très peu. J'avais plus de nourriture pour Monique, j'avais plein de graines. D'ailleurs, j'ai goûté, c'est pas terrible. Et j'avais prévu de pêcher, sauf que dans l'endroit où je me trouvais, malheureusement, il n'y avait pas de poisson. Et donc, Monique m'avait fait 106 œufs en 130 jours. J'ai quand même perdu 12 kilos. Mais grâce à moi, j'ai pu avoir ma dose de protéines. Et elle savait que j'avais besoin de ses œufs. Et puis, elle voulait me faire plaisir et être sûre que je reste bien en forme pour pouvoir bien m'occuper d'elle. J'imagine, j'espère. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, tout le mois de janvier, la banquise était bien, bien stable. On avait 60 cm d'épaisseur. Et donc, on pouvait, Monique comme moi, marcher dessus sans problème. Et fin janvier, en fait, il y a une tempête énorme, énorme qui arrivait. Et il y avait des vagues, en fait, qui glissaient au loin sous la banquise. Et on pouvait la voir, elle bougeait, en fait, elle était en mouvement. C'était vachement impressionnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la banquise a commencé à se fissurer et à vraiment complètement se disloquer. Puis c'était un puzzle immense. Et en fait, j'avais des vagues de glace qui venaient taper contre le bateau. Et avec la pression, le bateau se faisait complètement déformer. Alors moi là je me disais le bateau il va se faire écraser, on va finir en sandwich à l'intérieur. Là on s'est dit avec Momo mais ça peut plus le faire, il faut alors qu'on fasse un abri à terre. On avait préparé des sacs avec un sac de couchage, une tente, enfin des graines pour Momo, je l'avais sous mon bras. Enfin voilà. Au final le vent a tourné et puis la banquise est partie puis on s'est retrouvé dans l'eau libre. Ça l'a fait mais on peut voir que le bateau hein, sur les deux côtés est quand même pas mal cabossé, un peu comme une voiture à cause de la glace quoi. Mais il flotte. Bon, il faut savoir déjà que c'est pas une poule mouillée. Donc, mais non, mais après, elle a deux cabanes, Monique. Elle a une cabane à l'extérieur et une cabane à l'intérieur. Là, on a une ici, là. On peut voir.
Ah oui, donc c'est un petit casier, vous avez mis de la sciure de bois et...
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Et un pot d'eau.
Ouais, il y a de l'eau, et puis elle a plein de trucs dans là, des graines, donc il y a des copeaux, il y a des coquilles d'huîtres, enfin, il y a plein de choses. Puis après, bon, bah, c'est toujours ouvert, elle peut se balader quand elle veut.
Monique, c'est la première poule à avoir passé le passage du Nord-Ouest.
Le passage du Nord-Ouest, ouais, c'est ce qui relie, en fait, le Groenland à l'Alaska, la mer de Bering, c'est quand on passe de l'Atlantique au Pacifique, par l'Arctique, par le Nord, des glaces, donc... Et Monique, voilà, ouais, c'est la première poule à avoir fait ça, mais c'est la première poule à avoir fait tellement de choses que là, on pourrait en parler pendant des heures.
Et c'est quoi comme poule?
Bah, Monique, c'est une poule rousse, hein, c'est on dit une Red Rod Island en anglais. C'est très commun, hein, c'est voilà, des poules pondeuses, on en voit énormément.
C'est une poule comme il y a dans les élevages industriels?
Ouais, ouais, malheureusement, ouais, ouais. Et toutes ces poules en batterie, là, Ça, c'est quelque chose aussi qui me fait, moi, beaucoup de peine quand je pense que 80% des poules, elles n'ont jamais vu la lumière du jour et qu'à même pas un an, elles partent à l'abattoir et qu'elles sont faites juste pour pondre. Tu les vois en batterie, enfin, les unes sur les autres, enfin, parfois même mortes, elles se bouffent entre elles. Enfin, c'est genre atroce, quoi. Enfin, je trouve même pas de mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à cette cruauté, qu'on n'a pas le droit de faire ça à des animaux, quoi. Non, vraiment. Et moi, j'ai un petit peu habité avec les Inuits avant de partir sur ce projet d'hivernage. Ils m'avaient appris comment tuer un phoque, le dépecer, le préparer, tout ça. Donc, moi, j'avais prévu de tuer un phoque dès le début pour avoir suffisamment de nourriture pendant mon hivernage. Et au tout début de sa prise dans les glaces, j'étais avec Monique à l'extérieur. Puis je me souviens de voir une petite tête de phoque sortir de l'eau. Et là, bon, j'étais assez content. Je sors ma carabine. Et là, avec ma lunette, je commence à le viser. Et là, je vois cette tête de phoque se tourner vers moi avec ses petits yeux et me regarder d'un air, me dire « Mais non, mais toi, tu peux pas me faire ça, pas toi. » Et c'est vrai que depuis que je suis avec Monique, j'ai plus du tout le même regard envers les animaux et j'ai pas pu tirer, quoi.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été avec Changer le Monde, deuxième épisode, se relier aux animaux. Un reportage d'Inès Leroux réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Jean-Yves Rouelou, à Béatrice, à Lalou, à Guirec Soudé, à Lorraine Baumenel et à Alice Sternberg. Sachez que depuis la première diffusion de cette émission en janvier 2019, Guirec et sa poule Monique vont bien. Ils ont vécu sur une île bretonne depuis ce temps et ils envisagent maintenant de repartir en mer dès le mois de septembre. Jean-Yves Rouelou, lui, accueille dans sa ferme de plus en plus de stagiaires qui viennent essayer de comprendre ces techniques d'élevage. Il y a des philosophes, des étudiants et des zootechniciens. C'est Camille Richard, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djeriwi, notre stagiaire. Just let her be. Take a ride on the breeze. Why can't you see? She just wanna be cool, doing what she do. Bare feet swaying to a laid back beat. She just wanna be free. In my head, a kaleidoscope of dreams running around my bed. And I know, I know, I know, I know, we're gonna take it slow. The kind of soul that can do no wrong. A little salt to the earth and a blue sarong. And I know, I know, I know, I know, she's gonna take it slow. She just wanna be free.